Soudain la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio FPP 106.3 FM, à l'écoute de l'émission Sans papiers ni frontières, qui est une petite sœur de l'Envolée, en fait, une émission qui aura lieu tous les premiers vendredis du mois, comme on vous l'a déjà expliqué. Donc, Sans papiers ni frontières, c'est une émission qui parlera beaucoup des centres de rétention, qui sont des prisons spéciales où on enferme les sans-papiers, qui parlera aussi des frontières et qui parlera aussi plus largement des prisons, parce qu'il est, comme on l'avait déjà dit, hors de question qu'on soit ceux qui parlent des gentils prisonniers en imaginant que ce serait seulement les sans-papiers qui n'ont rien fait, mais que nous sommes des gens qui sont contre toutes les prisons et tous les enfermements. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré les gens de l'Envolée et Olivier et Jean-Luc, qui sont d'ailleurs là pour nous soutenir. Donc ce soir dans le studio, bah, y a Gabriel.
Salut.
Manu.
Salut.
Gaël.
Salut.
Khaled.
Salut.
Mohamed.
Salut.
Nathalie.
Salut.
Gilles.
Salut.
Et puis dans le bocal, et bah, y a Vincent, Rezane, Mélissa et Yannou. Voilà. Donc, et moi, moi c'est Fred, oui. Moi, je me présente. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer nos messages. On va continuer, en fait, comme avec l'Envolée, c'est-à-dire que les messages dans les prisons seront lus et dits à la fin de l'émission, c'est-à-dire les 10 dernières minutes. Donc, vous pouvez téléphoner au 01 40 05 06 10, où les messages seront pris en note et puis lus à la fin de l'émission. Donc là, pour cette première émission, on va dire que c'est aussi pour nous une date un petit peu symbolique parce qu'il y a eu le procès, le résultat d'un procès en appel pour des gars qui sont accusés d'avoir brûlé leur tôle, c'est-à-dire qui sont accusés d'avoir brûlé le centre de rétention de Vincennes en juin 2008. Et donc aujourd'hui, il y a eu le verdict après pratiquement 4 ans de procédure. Et il y a Gab qui va nous présenter ça un petit peu.
Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, ça a été une date importante pour nous parce que ça fait un long moment qu'on suit les inculpés qui avaient été mis en prison pour cet incendie et surtout pour eux. Il y en avait 6 qui avaient fait appel. Donc en fait, le 21, pour juste rappeler un peu le contexte, le 21 juillet 2008, le centre de rétention de Vincennes, le centre de rétention de Vincennes, il y avait eu un mort au centre de rétention de Vincennes ce jour-là. Et le lendemain, suite à une révolte collective, le centre avait entièrement brûlé. Donc il avait été fermé pendant plusieurs mois, ce qui avait empêché évidemment plein de gens de se faire arrêter et d'être envoyés en rétention. Et ça avait été très très important puisque c'était la première fois qu'en France un centre de rétention brûlait entièrement. Donc évidemment pour l'État il fallait pas laisser cet incendie impuni. Donc ils ont poursuivi des personnes, ils les ont traqués à la sortie des centres de rétention, chez eux, avec leur portable, etc. Il y a eu 10 ou 11 personnes inculpées. Ils ont tous fait de la préventive et ils ont.
C'est pas grave.
Il y en a certains qui n'ont pas fait de préventive. Bon, peu importe, ils ont pour la plupart fait de la prison. Et il y a eu un procès donc en janvier 2010 où ils ont pris des peines entre 12 mois et 3 ans de prison ferme. Ils ont été inculpés essentiellement sur des témoignages de flics et des vidéos de centres de rétention. Donc ça a été un procès vidéo, quoi, un procès hyper moderne avec dans la salle une télé avec des images de caméras de vidéosurveillance où on voyait des gens courir partout. Et sur ces images-là, les juges ont condamné en trouvant qu'évidemment les gens avaient pas été arrêtés par hasard. Et donc on condamnait les gens à ces peines de prison. Au procès en première instance, ils étaient tous dehors. Et donc, il y en a 6 qui ont décidé de faire appel de ces condamnations. Et donc, le procès avait eu lieu en appel. On était venu un peu en parler ici. Il a eu lieu au mois d'octobre 2011. Et donc, dans une ambiance un peu plus détendue que la première fois, c'est-à-dire que le juge était un peu plus à l'écoute. Il y a des témoins de la défense qui avaient pu un peu raconter les conditions de rétention dans ces centres, etc., la vie des sans-papiers, et tout ça. Donc le juge, aujourd'hui, lors de sa, quand il a donné les condamnations, il a dit qu'il avait pris en compte ces éléments, qu'il avait pris en compte non seulement les éléments de contexte de Vincennes, c'est-à-dire que c'est un centre où deux centres de rétention avaient été accolés avec donc énormément de monde, et donc les tensions auquel ça peut donner lieu, et qu'il avait aussi pris en compte le fait qu'avaient soulevé les avocats que les matelas n'étaient pas unifugés et l'autre truc, je ne sais plus ce que c'est, en tout cas qu'il y avait des éléments qui donnaient à penser que c'était pas seul, enfin que les feux qui avaient été mis n'étaient pas la seule cause du fait que le centre entier avait brûlé. Il y avait aussi des extincteurs qui ne marchaient pas, etc. Donc en gros, il a commencé en disant ça et finalement, il a donné des peines quand même assez importantes. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire au début quand il a dit qu'il prenait tout ça en compte, il a donné en fait des peines qui vont de 6 à 24 mois. Donc du coup, je vais donner par personne pour les gens qui ont un peu suivi cette histoire. Ekma, il avait pris 12 mois en première instance, il a pris 6 mois. Donc lui, il va pas retourner en prison, c'est sûr. C'est le seul dont on est sûr qu'il retournera pas en prison. Moïse, il avait pris 36 mois, c'est celui qui était considéré comme le meneur. Là, il avait pris 36 mois. Là, finalement, il a que 30 mois, entre guillemets, que 30 mois. Mamadou, il avait pris 30 mois plus 6 avec sursis. Il a pris 24 mois. Nadir, il avait pris 30 mois. Il a pris aussi 24 mois. Mohamed, il avait pris 30 mois. Il a pris 24 mois. Et Ali, il avait pris 30 mois dont 6 avec sursis. Et là, il a pris 24 mois. Donc, le juge a précisé que, donc, sauf pour Ekma, où là, c'est sûr qu'il ne retournera pas en prison, les autres, il n'y avait pas de mandat d'arrêt délivré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas recherchés, pardon. Mais donc, ils vont être convoqués et ils vont pouvoir aménager leur peine. Ça veut dire que, du coup, ils vont avoir une convocation où ils vont discuter de est-ce qu'ils font leur peine de prison, comment ils la font, à quel moment, etc. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ces...
Bah, en tout cas, que le juge n'a tenu aucun compte de ce qui a été l'élément déclencheur, à savoir la mort d'une personne, pour qui, du reste, personne n'a été condamné, même s'il a été reconnu que médicalement, ce type-là était souffrant et qu'il aurait dû avoir une assistance médicale et que ça n'a pas été le cas. Mmh. Mais ça, bon, voilà.
Oui, depuis le début de cette affaire, il n'y a jamais eu d'enquête précise, etc., et de prise en compte de la mort de Salem Souli, qui était mort la veille. Voilà.
Oui, bah donc, en fait, on va dire que le juge, il a fait un gros moins 6 pour tout le monde, quoi. Mmh. Hein, il a fait une soustraction, la même pour tous. Et ceci dit, on aurait pu se réjouir, on ne peut pas se réjouir d'abord qu'il y ait des gens qui sont condamnés, parce que quand même, 2 ans, c'est quelque chose d'assez lourd. Pour le centre de rétention de Vincennes qui avait brûlé, à l'époque, on s'était réjoui parce qu'un centre de rétention en moins, c'est toujours comme une prison en moins, c'est toujours quelque chose de bien. Mais malheureusement, il a été très, très vite reconstruit, le centre de rétention de Vincennes. Et aujourd'hui, 3 ans après sa reconstruction, on va dire que la situation, elle est pas mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont enfermés là, qui souffrent, qui sont enfermés là pour encore plus longtemps qu'avant, puisque dernièrement, cet été, la rétention est passée de 32 à 45 jours, que dans ce centre, tous les jours, il y a des gens pour échapper à l'expulsion qui avalent des lames de rasoir, des pièces de monnaie, qui se tailladent, qu'il y a aussi tous les jours, ça c'est moins triste, il y a tous les jours des révoltes, des actes de résistance, on va en parler tout à l'heure, des départs de feu aussi régulièrement. Et qu'à l'intérieur, donc, les gens ils se battent, et que nous, à l'extérieur, c'est bien de continuer aussi à se battre contre ça, contre les centres de rétention, pour la liberté de circulation, contre les rafles, c'est-à-dire contre les flics qui passent leur temps dans les rues à chasser les sans-papiers pour les attraper et les expulser, et contre les expulsions en général. Et donc, à propos de ça, il y a Manu qui va nous lire un texte, parce que demain, il y a un appel à se rassembler devant le centre de rétention de Vincennes.
Alors, rassemblement au centre de rétention de Vincennes, samedi 14 janvier 2012. Le vendredi 13 janvier, les juges de la cour d'appel de Paris ont rendu leur décision concernant les 6 personnes sans papier inculpées ayant fait appel pour la révolte collective qui, en juin 2008, après la mort d'un retenu, embrasa le centre de rétention de Vincennes. Au-delà du verdict que la justice a asséné aux 6 inculpés, nous continuerons à lutter parce que les personnes sans papier continueront d'être pourchassées, enfermées et expulsées. Et la justice continuera de valider les reconduites à la frontière et l'enfermement pour des milliers d'autres personnes. Depuis juin 2008, le centre de rétention de Vincennes a été reconstruit et de nouveaux centres ont vu le jour. Ces nouveaux centres sont construits sur un modèle carcéral, en général loin des centres-villes et des regards extérieurs. Le Ménil-Amelot 3, par exemple, érigé au pied des pistes de l'aéroport de Roissy, avec ses petites unités isolées, ses caméras de surveillance, ses rangées de barbelés et de plantes à épines, qui cachent les retenues et écorchent quiconque s'en approche trop. Depuis juin 2008, la machine à expulser s'est perfectionnée, notamment grâce à de nouvelles lois. Ainsi, la loi Besson, entrée en vigueur l'été dernier, remplit bien les objectifs clairement assignés à toutes les lois sur l'immigration. Mettre davantage de pression sur les personnes sans papier et les expulser plus facilement. Dans cette même logique, l'enfermement de celles et ceux à qui l'administration ne veut pas donner de titre de séjour est de plus en plus long et punitif. Depuis juillet dernier, la durée de rétention est passée de 32 à 45 jours. Elle était de 12 jours il y a 10 ans. Dans ces centres où de plus en plus de gens sont enfermés de plus en plus longtemps, le maintien de l'ordre se fait comme dans toutes les prisons. À force de menaces et de répression, et à grand renfort de tranquillisants et autres médicaments, censés annihiler toute volonté de résistance et de rébellion. Ainsi, parmi celles et ceux qui sont enfermés dans l'attente d'une expulsion qui semble toujours plus inéluctable, beaucoup sont acculés entre révolte et désespoir à avaler des lames de rasoir, à se pendre ou à se taillader. D'autres fois, le même espoir d'échapper à l'expulsion pousse à refuser d'embarquer, à se cacher et à s'évader. Si des révoltes, des résistances individuelles ou collectives ont régulièrement lieu dans les centres de rétention, elles sont la plupart du temps étouffées et réprimées avec peu de retentissement extérieur. Dehors, des solidarités de proximité perdurent, permettant à quelques personnes sans papier de ne pas être expulsées ou de régulariser leur situation. Mais des luttes plus larges pour la liberté de circulation, contre les frontières et leurs prisons peinent à s'exprimer. Pourtant, les frontières, les visas, les systèmes de surveillance et de contrôle continuent à prospérer et n'ont jamais autant tué. Ainsi, depuis le 14 janvier 2011, jour de la chute de Ben Ali en Tunisie, ce sont plus de 2000 personnes qui ont péri en franchissant la mer Méditerranée. Nous ne voulons pas nous résigner au contrôle d'identité, aux rafles, aux centres de rétention et aux expulsions. Aux côtés de tous les sans-papiers qui se révoltent pour leur liberté, amplifions les mouvements qui existent à l'intérieur comme à l'extérieur, qui s'opposent aux arrestations, empêchent des expulsions, facilitent des évasions. Brisons l'isolement et propageons la révolte contre les frontières, l'enfermement et pour la liberté. Et donc, il y a un rendez-vous pour un rassemblement devant le centre de rétention de Vincennes. C'est donc samedi 14 janvier, demain, à 16h, au RER Joinville-le-Pont. C'est le RER A.
Maintenant, on va parler d'un événement un peu particulier qui a eu lieu au mois de décembre. En fait, comme des gens sont souvent en contact avec des retenus à l'intérieur du centre, des sans-papiers qui ont été arrêtés dans différentes situations, des grévistes du mouvement des travailleurs sans-papiers ou d'autres situations, nous avons été au courant qu'il y a eu un événement un peu particulier dans la nuit du 5 au 6. Et donc, en fait, du 5 au 6 décembre, donc à Vincennes, au centre de rétention de Vincennes, bien sûr, nous sommes au centre de rétention de Vincennes. Nous apprenons qu'il y a eu une résistance un peu particulière à des expulsions. En fait, tous les jours, il y a des résistances individuelles à l'expulsion.
Celle-là, elle a été un peu plus collective. En fait, nous apprenons que deux personnes qui avaient un vol pour l'Algérie le 6 au matin se sont enfermées dans une chambre avec 23 autres personnes pendant plusieurs heures pour ne pas être expulsées. Et nous réussissons à retrouver ces deux personnes. Et donc, une d'entre elles est ici dans le studio. Et nous l'appelons quelques jours après au centre de rétention, après, que, donc après une garde à vue, après un jugement en comparution immédiate au tribunal correctionnel, après une garde à vue aussi pour les 23 personnes qui se sont solidarisées de ces deux personnes qui devaient être expulsées. Et donc, nous les retrouvons et faisons ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire on téléphone au centre de rétention et on discute avec la personne et on publie après un témoignage sur Internet pour que l'extérieur sache ce qui s'est passé à l'intérieur cette nuit-là. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter avant qu'on passe le témoignage peut-être qui a été enregistré d'une des deux personnes.
Je pense qu'on peut entendre le témoignage maintenant qui, en fait, suffit à lui-même et va bien expliquer ce qui s'était passé, quoi. Et puis après, on discutera avec Khaled et puis Mohamed, qui étaient les principaux protagonistes de cette histoire parmi 23 autres.
Moi, j'étais au centre de rétention, ça fait même pas un mois et demi. Je suis sorti le 5 août, j'ai passé 32 jours. Après, je suis sorti même pas un mois dehors. Ils m'ont rattrapé encore, contrôle papier. Ils m'ont ramené encore là au centre. Là, le centre, il est à 45 jours maximum. Ça fait 45 jours, t'es libéré. Moi, j'ai fait 44 jours. Dernier jour, ils m'ont mis un vol pour m'expulser en Algérie. Je voulais pas rentrer. En fait, là, les policiers, à chaque soirée, vers 22h, ils mettent une liste pour demain. Les gens qui vont partir au juge, les gens qui ont un vol. Quand on met la liste, je vois mon nom et un pote à moi, aussi un Algérien, dans le même vol pour Alger. On a décidé, on était 23 personnes avec des Pakistans, des Renois, des Romains. On a rentré dans une chambre. Le vol il était à 8h. Ils voulaient venir, normalement on est prêt vers 4h30, ils viennent les policiers pour nous prendre. Nous vers 4h, on était dans une chambre. On était 23 personnes. Et chaque personne y ramène avec lui sa chaise. Et on a bloqué la porte avec des matelas et des chaises. On a appelé des avocats, on a appelé des associations, mais il n'y a personne qui a répondu ou qui est venu. On était presque 5 heures dans la chambre. Ils voulaient faire des gazos, des crémongères et tout. On appelle, il n'y a personne qui répond. Il y a un avocat, mon pote, il a appelé son pote. Il était avec un avocat. L'avocat, il est venu jusque devant la porte. Il ne voulait pas le laisser rentrer. Il ne voulait pas, même pas. Il est venu jusqu'à la porte. Parce qu'on a appelé avec le portable. Il est venu devant la porte. Après, il a appelé sur le portable. Il a dit, je suis devant la porte. Il ne voulait pas me laisser rentrer. Vers 4h30, ils sont venus les policiers. On ne voulait pas sortir. Après, ils ont appelé les casques bleus, les CRS et tout. C'est impossible, en plus les policiers n'arrivent même pas à ouvrir la porte. Il y avait je sais pas combien de policiers, 20 policiers au second. Ils n'arrivent même pas à ouvrir la porte. Parce que tout le monde là-dedans bloque la porte avec les matelas, les chaises. Jusqu'à qu'ils sont cassés la porte. Ils sont rentrés. Moi j'ai coupé tout mon ventre avec une lame. Ouais. J'ai coupé tout là, je peux même pas bouger. J'ai mangé 3 lames. Après, on a parti à l'hôpital. On a resté à l'hôpital même pas une heure. L'hôpital, on a parti direct garde à vue. Commissariat 21. On a resté presque 4 heures. Après, on a parti au garde à vue de City. Après, on a passé au palais de justice. Le justice il m'a ajouté une heure 45 jours. Pour moi et mon pote. Juste pour la porte, ils ont cassé la porte et tout.
D'accord.
Quand on a parti au garde à vue, on a parti tous les 23 personnes. Ils m'ont dit que c'est toi et ton pote qui a décidé de rentrer. Pourquoi on a dit à les gens, viens, on va faire une soirée. Les gens, ils sont rentrés dans la chambre. Nous, on a bloqué la porte, il n'y a personne qui sort. Et les gens, ils sont tous plus grands que moi. Moi, je suis le petit. En plus, les policiers qui ont voulu ouvrir la porte, tout le monde tient la porte pour les policiers qui ne rentrent pas. Après, le juge, il m'a dit, toi, tu as bloqué la porte et tu as dit à les gens, il n'y a personne qui sort et tout. Enfin, moi, je bloque 23 personnes à l'intérieur. Après, j'ai passé devant le juge et il m'a dit 45 jours, 45 jours. D'ailleurs, quand je suis rentré là, j'ai fait une course avec le drap pour que je suicide. Après, j'ai mangé deux lames, ça fait la dame dans mon ventre, il y a quatre lames. Et je suis toujours là. Hier soir vers 23h, ils ont appelé mon pote. Viens, il faut que tu viennes, tu signes des papiers et tout. Il a descendu pour signer des papiers, ils l'ont pris directement, menotté et tout, ils sont pris là, il est en Algérie.
Le pote qui était avec toi dans la chambre, qui devait expulser.
Il a trois lames dans son ventre, et avec une lame, il a déchiré tout son ventre, et là, ils l'ont pris. Avec les lames dans son ventre et tout, ils l'ont pris. Malheureusement, je sais pas quoi faire. Là, il est en Algérie. Ils l'ont appelé pour signer des papiers, il a parti, il a...
Et tu sais si les flics ils leur ont demandé de témoigner contre toi aux autres ou pas?
Ouais. Et là je parlais avec mes potes parce que je lui ai dit c'est pas bien ce que t'as fait. Tout le monde il a dit que c'était moi qui a bloqué la porte et j'ai dit personne qui sort. Ils m'ont dit, ils m'ont juré que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde il a parlé avec au garde à vue, ils ont dit. On voulait pas notre pote il part expulsé, c'est pour ça qu'on a bloqué la porte. Tout le monde il a dit ça. Et le juge il m'a dit non. Il m'a dit les gens ils ont dit que t'as fermé la porte, tous les personnes qui sortent et tout.
Ils ont remis une rétention comme si c'était au début.
Ouais, normalement 5 jours je pense chez le juge.
Ouais. Ça a commencé quand là? Quand est-ce qu'exactement ils t'ont ramené au centre?
Normalement, je sors le 7. Le 7 à 16h, le 7 décembre à 16h, je sors libéré. Bah, le 7, ils vont revenir au centre. Ça fait de la date du 7, je commence de nouveau. Ça fait le 8, 9, 10, 11, le 12, je passe au jugement. L'hôpital pour les psychiatres. Pour voir le médecin, les psychiatres. Je passe la nuit là-bas, ils m'ont donné des médicaments pour me calmer et tout. Je passe la nuit là-bas, après le lendemain, ils vont revenir au centre.
Et à l'hôpital, ils ont fait quoi pour les lames?
Rien, ils m'ont mis des radios. Après les radios, je passais avec au jugement. Bah, tu vois dans la radio comme ça les lames et tout, mais le juge ne voulait pas. Il m'a dit, il a parlé avec l'avocat, il a dit, on n'a pas reçu les radios et tout. Les radios là, ils sont là, dans le centre. Bah, moi je veux pas, moi je veux juste sortir, je veux quitter la France. Avant le 24 heures, je veux quitter la France. Sortir de là, bah, je veux pas, je peux pas rentrer en Algérie parce que j'ai personne là-bas. Toute ma famille sont là, j'ai trois mes tantes là, j'ai deux mes oncles. En Algérie, j'ai que ma mère. Ma mère, elle a divorcé avec mon père, j'avais 7 ans moi. Après, elle a fait sa vie, elle a se marier. Bah, j'étais chez ma grand-mère. En 2005, ma grand-mère, elle était morte. Bah, c'est pour ça que je suis venu. Je suis hébergé chez ma tante, je suis déclaré aux les impôts, j'ai ma carte bleue, j'ai tout, le numéro de social, j'ai tout. Mais cette fois, c'est bon, je veux sortir, je veux quitter la France. Je pars en Belgique, en Espagne, mais je reste pas ici. Là-bas, je revenais à l'SDF là-bas. Donc c'est trop difficile pour revenir ici. J'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent, je connais personne là-bas. C'est trop difficile. Là, j'ai fait une grève de faim de deux jours de vol. Depuis le 2 décembre, j'ai rien mangé, juste de l'eau, du sucre. Ils n'ont rien à foutre.
Et est-ce que tu as revu les autres avec qui tu étais dans la chambre?
Ouais, ils sont là.
Dans le même centre que toi?
Ils ont libéré deux et les autres, ils sont là. C'était le même centre, mais dans le centre, il y a trois crabes. Le 1 et le 2, moi j'étais dans le 3. Là, ils m'ont pris dans le 2. Mais je suis juste à côté, je parle avec tout le temps parce qu'il y a juste un grillage. Il y a juste un barrière comme ça, je parle tout le temps avec eux. Les autres, ils sont revenus au 3. Ils ont fait 5 heures de garde à vue. après ils ont libéré un peu, et les autres ils sont là dans le centre, ils continuent ces jours. Dans le centre, il n'y a que moi, ils m'ont pris dans le 2, et l'autre, dans le ils m'ont pris dans le 1, tout le temps dans ma chambre.
Alors juste, je vais reprendre par rapport au témoignage de Mohamed qui est avec nous là ce soir et corriger juste un truc. En fait, donc ils sont placés en garde à vue séparément. Donc les deux personnes qui devaient être expulsées le mardi matin, Majid et Mohamed, ils sont placés en garde à vue et ils vont passer en comparution immédiate à la 23e chambre du TGI de Paris. Pour soustraction à une mesure d'éloignement uniquement et pas sur les histoires de la porte cassée ou de l'enfermement dans la chambre. Voilà, ils vont passer donc pour cette raison-là, soustraction à une mesure d'éloignement, et ils vont prendre une peine de 3 mois avec sursis et de 3 ans d'interdiction du territoire français. Et on est à la fin de la rétention de Mohamed. Pour Majid, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on est à la fin de la rétention de Mohamed. On doit être au 44e jour ou au 45e jour. 45e jour. Donc il a déjà fait 45 jours de rétention. Et c'est l'ITF qui va prendre de 3 ans, qui, on appelle ça une ITF à exécution provisoire, à elle seule, elle se suffit pour replacer quelqu'un en rétention pour une durée de 45 jours. Et c'est la raison pour laquelle il retourne en rétention à ce moment-là.
Voilà, donc en fait, Mohamed, tu retournes direct en rétention après. Et ensuite, tu es libéré. Nous, on s'est rencontrés quand tu t'es fait libérer par le JLD 5 jours plus tard. Est-ce que tu peux juste raconter pendant ces 5 jours pourquoi, au moment où Majid, lui, il se fait transférer dans un autre centre puis expulser directement, toi, finalement, tu arrives à échapper une nouvelle fois à l'expulsion. Comment ça se passe ?
Le premier jour, on a rentré au centre, c'était le 7 décembre. Bah, la soirée même, j'ai fait un cours, je suis parti à l'hôpital. Bah, ce soir-là, il y avait un vol pour nous. Moi, je suis parti à l'hôpital. Ils sont venus nous chercher. Moi, je suis à l'hôpital. Ils ont trouvé Talab à la chambre. Ils l'ont pris direct. Ils l'ont appelé, viens signer des papiers. Il a descendu pour signer des papiers. Ils l'ont expulsé direct. Et j'avais un autre vol dans 12 jours. J'ai valé 5 lames. Je suis parti encore à l'hôpital. Ils sont venus me chercher. J'étais à l'hôpital. Et après, j'ai fait un avocat. L'avocat, il m'a appelé. Il m'a dit il faut faire demande d'asile. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Je suis parti direct. J'ai fait la demande d'asile. C'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Jusqu'à ce que je passe au jugement.
D'accord, du coup, la demande d'asile, en fait, elle a pu. C'est un truc qu'on a le droit de faire à chaque fois qu'on va en rétention. Même si elle est refusée, en fait, ça laisse un petit délai pendant lequel ils sont obligés de traiter le dossier pour répondre. Et ça a fait que ça a pu retarder l'expulsion. Et donc, tu es passé devant le juge des libertés le mardi, je crois. Donc.
C'était le 12, le lundi 12.
Le lundi, voilà. Ouais. Et là, en fait, ben, nous, on était dans la salle parce que suite à ce que racontait Nathalie, le témoignage qu'on avait vu, enfin le témoignage qu'on avait eu quand on est au téléphone, etc., on avait cherché dans nos contacts un petit peu pour essayer de trouver un avocat qui soit assez bon et un peu de mobilisation pour que tu puisses sortir. Et ça a marché puisque l'avocat est venu et il a assez bien plaidé et du coup, il a soulevé au moins 5 moyens de nullité et le juge en a retenu un. Nous, on n'était pas beaucoup dans la salle, mais on était quand même là et ça change quand même pas mal de choses quand il y a des gens dans la salle pour soutenir quelqu'un. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu es sortie. Et voilà, qu'est-ce qu'on voulait demander d'autre ? Ah oui, moi, je demandais à Khaled maintenant aussi un peu. Comme toi, tu faisais partie des gens qui étaient dans la chambre au moment de cette action qui a permis d'empêcher l'expulsion de personnes. Toi, donc, t'es allé en garde à vue. Et ensuite, quand t'es revenu au centre, comment ça s'est passé, en fait, avec... est-ce que t'as été remis dans le même bâtiment ? Est-ce que t'as pu revoir les autres avec les policiers ? Comment ça s'est passé ?
Oui, j'étais toujours sur le même CRA. C'est dans le même bâtiment, c'était le CRA 3, comme il s'appelle. On était tous là, sauf Mohamed et Majid. Bon, on a entendu que Majid était expulsé par quelqu'un d'autre. Il y a des policiers qui nous ont dit qu'il était expulsé. Nous, on était sous le choc, tout le temps, toujours dans le CRA. Et c'était pas pareil comme avant. La police, ils parlaient avec personne. Ils ne laissent même pas parler. Celui qui fait une faute, il paye dans le coup. Et bah, tout le monde a bien compris que c'est vraiment chaud, quoi. Et c'est pour ça, tout le monde s'est calmé. Ça a commencé d'autres histoires après, mais c'était pas comme avant. Après, c'était vraiment trop dur. La police rentrait, il y avait à partir de le chef et tout. Celui qui fait un bêtise, il lui sort direct la salle d'isolement. Le lendemain, il rentre. Et il y en a qui sont partis, sont revenus, ils ne connaissent personne. Il y en a qui les envoient, qui les donnent. Par rapport à l'infirmière aussi, celui qui fait des bêtises, tiens, il lui donne des médicaments, des trucs, des médocs, des toxicos.
Les médicaments, ils servaient pour endormir les gens.
Ouais, pour calmer les gens, vraiment. Il y avait, comme on dit, les Revotrel, des Lemovan, des Xomil. À partir de moi, ils me donnaient plein de médicaments. Bon, je ne les prends pas, mais c'est pour calmer tout le monde. 3 fois par jour, ils appellent, on était cinquantaine. Cinquantaine de personnes, ils appellent 3 groupes, le matin, l'après-midi, le soir. Et il faut, chaque groupe, il lui prend assez de médicaments. Le Revotrel à volonté, c'est pire que des bonbons. Et tout le monde était calme, quoi. Celui qui parle un peu, il lui ramène direct.
Oui, moi je voulais te demander, donc toi tu as passé aussi 40 et quelques jours en rétention. Est-ce que c'est souvent qu'il y a quand il y a quelqu'un qui va être expulsé, les autres personnes qui sont avec lui dans le centre essayent d'empêcher l'expulsion, ou là c'était vraiment, tu as vu ça qu'une fois toi, quand ça s'est passé pour Mohamed?
Non, c'était tout le temps ça.
C'est-à-dire souvent, les gens sont solidaires entre eux et exactement. Essayent d'empêcher l'expulsion.
Ouais, les gens, ils se mettent entre eux et tout, ça fait mal au cœur. Chacun, il a son histoire ici en France. Pour des gens qui s'expulsent, il y a des gens qui travaillaient, qui ont une famille. Et à chaque fois, ils les expulsent comme ça, gratuit. Il y a des gens qui les ont arrêtés pour rien du tout. Les mecs qui marchaient dans la rue, ils l'arrêtent, contrôle papier, ils se retrouvent, ils passent 45 ou 42 jours en centre de rétention. Et à la fin, l'expulsion. Et l'expulsion, ils refusent premier vol, deuxième, troisième, ils vont le scotcher. Avant, ils mettent une liste où ils affichent des vols. Mais maintenant, ils appellent les gens, retour de visite, aller au coffre, viens à la gestion pour signer des papiers. Et c'est là qu'ils se retrouvent scotchés avec un casque, l'expulsion. Je connais 3 ou 4 gens qui m'ont appelé, des Algériens qui m'ont appelé de l'Algérie. Il y en avait 3 que je l'ai sans numéro, leur numéro, qui m'ont appelé. Ils étaient en Algérie, ils m'ont appelé, ils me disent « Ouais, je suis en Algérie ». J'étais vraiment choqué. Ce qui m'est arrivé à moi, 45e jour, avant 2 heures de ma libération, ils m'appellent que je suis libéré, je descends. Je me trouve, il y a du scotch qui m'attend. C'était vraiment aussi horrible.
Parce qu'ils avaient déjà essayé de t'expulser une première fois 2 jours avant.
Ouais. Ouais, au niveau de 43e jour, ils m'ont mis un vol que je l'ai refusé à l'aéroport. C'était bien passé et tout, c'était normal. Je l'ai refusé, j'arrive en bas de l'avion, monté, je ne voulais pas monter. Ils ont essayé de me mettre un coup de pression. Bon, ils n'ont pas vraiment réussi. Je suis tourné dans le centre, le 45e jour, il n'y avait rien. Ils sont célibérés à 14h30, ils m'appelaient à midi 30. Ils m'appellent, ouais, telle personne, vous êtes libéré, je descends, libéré. Je prends toutes mes affaires. Pour moi, c'est la libération. J'arrive au coffre, ils me disent, ouais, pour ne pas se récupérer vos affaires. Je dis, non, j'ai rien. Et c'est là, je trouve, il y avait un papier. Bon, je sais un peu lire le français, je trouve un papier, escorte telle personne à Orly. Et c'est là où je me suis... je me suis tailladé au niveau de bras, j'ai 72 points de suture. Ça me fait vraiment mal au cœur ce que j'ai fait, mais c'était... Voilà quoi, c'est contre l'expulsion, c'est mieux que l'expulsion quoi. Et là, on se retrouve avec une quitte de territoire de 7 jours. 7 jours, on va quitter le territoire, on va aller où avec... Ça rien du tout, je vais retourner où?
Et là, ils t'ont emmené à l'hôpital directement cette fois-là?
Oui, ils ont appelé les pompiers, mais j'avais pas fait confiance aux pompiers. Tellement j'étais en état de choc. Et par rapport à mon bras et tout, je regardais, j'étais vraiment choqué devant tout le monde. Je fais confiance à personne. Il m'appelle pour être libéré. Et après, je me retrouve. Ils vont m'emmener à l'aéroport. Après, même les pompiers, je ne leur fais pas confiance. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, allez. Je ne voulais pas avancer avec les pompiers. Après, j'ai appelé mes frères, ma famille. J'ai appelé l'avocat, mon avocat. Et c'est lui qui m'a dit que je vais avec les pompiers. Mais j'étais toujours en escorte jusqu'à la dernière minute.
C'est-à-dire jusqu'à ce que tu sortes de l'hôpital?
Non. Ah non, j'étais à l'hôpital, c'était parce qu'il me restait vraiment 2 heures, moi, pour ma libération. Mmh. Et après ma libération, après 2 heures, c'était à 14h30. Mmh. C'est là où la police était toujours avec moi. Et c'est là que j'ai réussi un papier. Ils m'ont donné un papier, je l'ai signé. C'est un kit de territoire, départ volontaire, avec mes propres moyens. Et j'étais libéré du centre de rétention. L'histoire, elle n'est pas finie. Mais c'est juste fini au niveau du centre. Mmh. Mais toujours là, après une semaine, je risque l'expulsion, je risque qu'ils m'arrêtent pour un simple contrôle dans les métros ou dans la rue. Ou...
moi, je voudrais demander à Mohamed, parce qu'en fait, on a été au courant qu'il y a eu un incendie au centre de rétention de Vincennes en novembre, début novembre. Et donc, toi, tu étais au centre de rétention à ce moment-là? Tu te rappelles?
Oui, ouais, c'était le 29 octobre. En fait, il y avait un pote à moi, c'est un Algérien. Il est rentré au centre. Il a fait 12 jours. Après, il avait dégoûté. Il a taillé sa main et son ventre avec une lame. Une heure après, ils l'ont appelé libéré. Les gens là-bas, ils ont vu ça. Ils ont dit, on va faire du feu, comme ça, on serait libéré nous aussi. Moi, j'étais dans le coffre. Je suis parti chercher des affaires. Après, je vois les policiers, ils courent. Après, je suis revenu au CRA. Il y avait tout le monde dans la cour, sur le mur, les mains sur les têtes. Après, ils ont pris les cartes de tout le monde. Après, ils ont appelé les pompiers, ils sont venus les pompiers. Après, il y avait des policiers, ils ont sorti tous les matelas. Avec des appareils photo, ils ont pris des photos. À une heure et demie après, Ils ont regardé les films des caméras. Après, ils ont appelé deux mecs, des Tunisiens. Ils l'ont pris. Après, on ne sait pas, ils sont partis où.
Ouais. Qu'est-ce qui a brûlé exactement?
En fait, il y avait les chambres en premier étage. Quand tu montes les escaliers, il y avait 50 chambres à droite et 50 chambres à gauche. Ils ont brûlé toutes les chambres côté à droite.
D'accord. Bon, donc encore une fois, les flics se servent énormément des caméras de vidéosurveillance qu'il y a dans le centre de rétention.
Et même de manière très rapide, c'est assez hallucinant qu'en fait, d'après ce que tu nous racontes, ils regardent immédiatement les bandes et immédiatement, ils vont chercher les mecs dans le couloir, qui sont dans la cour et ils leur disent « toi et toi, tu viens ».
Oui, directement par 5 minutes. Des fois, il y avait des bagarres, il y avait... Tu sors un briquet comme ça, t'allumes, même pas 2 minutes, 3 minutes, vient les policiers direct.
Et en fait, vas-y.
Ouais, pour quelqu'un qui perd ses objets ou ses affaires et tout, il voyait rien. À chaque fois, il y a des gens qui perdent leurs affaires. On demande des caméras, non, on peut pas. C'est les responsables qui peuvent voir ça. Mais après, s'il y a quelqu'un qui sort quelque chose ou il y avait un bagarre ou même les bagarres, ils nous laissent jusqu'à la fin, jusqu'à la séparation et tout. Il vient, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un bagarre, il prend les chambres d'isolement. Jusqu'au lendemain qu'il les ramène. S'il y a des dégâts, la garde à vue. Sinon, les caméras, ils les servent pour eux. Si quelqu'un il touche la poubelle ou si quelqu'un il parle mal avec un agent de policier, ils voient ça.
Et donc, donc sur ces deux personnes qui ont été prises, donc on les a retrouvées, en fait. Et du coup, faut savoir qu'il y a des rumeurs en centre de rétention comme quoi... les gens avaient pris énormément de prison.
5 enfermes.
Moi, c'était les bruits qui couraient. Bon, on finit par penser que les flics ont intérêt à faire courir ce genre de bruit, comme quoi les gens prennent des lourdes peines quand ils se révoltent. De fait, les peines sont bien moins lourdes, heureusement, même s'il y a un jour de tôle, c'est toujours un jour de trop. Mais voilà, ils ont pris finalement 4 et 6 mois ferme, et celui qui a pris 6 mois est libre actuellement parce qu'il y a eu une demande de remise en liberté qui a marché. Et celle qui a pris 4 mois ferme, la personne qui a pris 4 mois ferme est à Fleury, voilà, donc depuis 2 mois et quelques.
Et d'ailleurs, on ne sait pas dans quel s'il est au D1, D2, etc. Mais on le salue. Voilà, si jamais il nous écoute ou qu'il a un voisin qui nous écoute, on lui dit voilà, salut.
Bon courage à toi.
Et sur l'histoire des rumeurs aussi, oui, enfin, bon, d'abord, il pourra nous écrire. On redonnera l'adresse de l'émission après. Mais sur cette histoire de rumeurs que les flics font courir dans le centre de rétention, je me rappelle, Raled, je t'avais eu au téléphone pas très longtemps après la garde à vue. Et Mohamed et puis l'autre n'étaient pas encore revenus au centre de rétention. Ils étaient certainement au palais de justice. Et en fait, apparemment, vous... tous les autres des 23, les flics vous ont fait croire qu'ils avaient été emmenés en prison. Comme pendant toute la garde à vue, apparemment, ils vous ont dit que vous alliez aller en prison. Et à ce moment-là, avant que Mohamed revienne, tu pensais que les deux étaient partis en prison. C'était encore une rumeur qu'ils faisaient.
Quoi, tu veux dire que la police ment ?
Oh. Oui. Donc, bah, je sais pas, on va peut-être passer un petit morceau de musique maintenant, et puis après, on continuera à discuter.
Chaud le 14 juillet.
You're doing the sweet, getting back to my back, I love you. You're doing the sweet, oh yeah. You're slim.
Chance, understand me. You're dirty, sweet, and you're.
Oui, bon, bah, donc comme on l'a dit, pour nous écrire, c'est 43 rue de Stalingrad, 9300 Montreuil. Et par ailleurs, les gens qui veulent laisser des messages, vous pouvez appeler dès à présent. Voilà.
Moi, je voudrais dire que c'est toujours bien d'appeler au centre de rétention, ben, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, pour donner un peu de courage à toutes ces personnes qui sont enfermées. Et donc, je vais rappeler les numéros des cabines de Vincennes. Je ne vais pas faire les 25 centres de rétention de France, mais bon, je vais au moins donner celle de Vincennes. Donc, Vincennes est divisée en 3 bâtiments. Alors, bâtiment 1, 01 45 18 02 50. 01 45 18 59 70. 01 45 18 12 40. Ça, c'était le bâtiment 1. Bâtiment 2. 01 48 93 69 47. 01 48 93 69 62. 01 48 93 90 42. Bâtiment 3, toujours à Vincennes. 01 48 93 99 80, 01 43 76 50 87, 01 48 93 91 12.
Rappelle quand même, tu peux quand même rappeler qu'on peut trouver ces numéros sur un site
internet. Oui, alors http://sans-papiers, au pluriel, internetdown.org.
Et après, quand même, un dernier numéro, je continue, parce que là, l'intervention est tellement passionnante. Oh. Je rajoute un numéro supplémentaire, le numéro de la radio ici pour les messages, c'est 40 05 06 10, 40 05 06 10, voilà, pour les messages là, maintenant, tout de suite, ici.
Ok, on continue du coup un peu avec vous, Mohamed et Khaled. Juste, vu que c'est la première fois qu'on fait cette émission, on aimerait bien que vous racontiez un petit peu comment ça se passe dans le centre de rétention à Vincennes, et notamment parce que dans les centres de rétention, contrairement aux prisons, c'est pas des matons qui vous surveillent et qui gèrent la vie quotidienne, c'est des flics. Et du coup, comment ça se passe avec les flics? Quelles relations vous avez? Quelles sont les autres personnes que vous pouvez croiser, etc. Si vous pouvez raconter un petit peu ça.
En fait, le centre de rétention, c'est pire qu'un prison. Quelqu'un qui est en prison, il peut. Quelqu'un qui est en prison, genre, il a une peine de prisonnement, il a passé 2, 6 mois, 1 an, 2 ans, et après il sort. Là-bas, on vit sur le stress. Ouais, j'attends mon avion, ils vont m'expulser, ils vont faire ça. Encore à gauche, à droite, on ne sait même pas à qui on peut se renseigner. La plupart de nous, ils ne parlaient pas le français. Il y a un peu de tout. Il y a des Africains, des Chinois, des Colombiens, des. Même des gens qui ont des papiers de l'Union européenne, ils les arrêtent, ils les ramènent, ils l'expulsent, des Allemands, des Italiens en plan, qui étaient dans le centre. Bon, le premier jour, moi, ils m'ont arrêté. Après la garde à vue, ils m'ont emmené au centre de rétention. C'est la première fois où je fais la garde à vue, je fais le centre de rétention. Pour moi, c'était un présent. Je descends en visite. Bon, j'étais loin de ma famille, de mes amis, de tout le monde, enfermé. Où il y avait de la police, je ne savais pas comment ça se passe à peu près les premiers jours. C'était vraiment trop dur. Après 4-5 jours, je commence à me remettre, je commence à rencontrer des gens de mon pays, des origines, des Maghrébins en général.
Parce que vous vous croisez dans les couloirs ou ça se passe comment? Vous êtes dans des chambres communes?
Non, dans les chambres, chaque chambre, il y a 2 personnes. Mais on a le couloir, on a la cour, on se croise tous les jours, quoi. Et on se tape des soirées, on se voit tous, quoi, dans le bâtiment. On commence à se rencontrer entre nous, t'es doux. Bon, pour moi, je parlais un peu avec tout, avec des Africains qui parlaient un peu le français, avec des gens qui parlaient l'arabe. Le problème là-bas, qu'il y a des gens qui ne parlaient pas la langue française, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe, comme on dit des Chinois ou des autres races, quoi, qui parlaient pas la langue. Ils parlaient ni le français ni autre langue, ils parlaient l'autre langue d'origine.
Et il n'y a pas d'interprète à l'intérieur pour...
Non. Bon, moi j'étais un peu l'interprète de tout le monde pour les gens qui parlaient un peu l'arabe. Les gens qui parlaient français, bon, ça va pour eux. Mais il n'y en avait pas beaucoup, on était juste 2 ou 3. Il y avait des Africains qui parlaient un peu les Côte d'Ivoiriens aussi. Alors on avait deux qui parlaient un peu le français, mais ils ne se mélangeaient pas trop avec les Maghrébins. Et voilà.
Et tu disais, juste avant, là, tu disais que les policiers, en fait, c'était des policiers qui étaient à l'école, parce qu'en fait, le centre de rétention, il est collé à une école de police.
Exactement. En fait, c'est des stagiaires. Et comme les gens, ils ne voient pas quel grade est là, eux, ils nous montrent comme si on est de la police. Ils essayent de nous faire croire comme si c'était des grands, quoi.
C'est là qu'ils font leurs armes, quoi.
Ouais. Ils rentrent, ouais, toi, assis-toi, casse-toi d'ici, parle mal avec les gens. Alors les gens, ils comprennent pas, ils voient que c'est marqué la police. Ils savent pas, lui, c'est un brigadier ou c'est un, il a deux barres ou trois ou pour eux, pour nous, à partir de moi. À partir de moi, on voit que c'est un policier, on ne fait pas la différence. Alors que c'est des stagiaires qui, avant de passer au commissariat, il y avait juste l'école qui était collée. Il y avait une école dans le centre. C'était vraiment la même porte, la même entrée.
C'est l'école de police de Joinville.
Ouais, Joinville, c'est...
Qui est collée au centre de rétention. Et il y a aussi la brigade cynophile aussi. Il y a les chiens aussi qui vous font chier aussi toute la nuit. Ouais, j'imagine aussi, quoi. C'est...
Ouais, apparemment, ce que j'ai demandé, moi, ils m'ont dit que c'est des chiens de la préfecture. Il y avait quelqu'un d'autre qui m'a dit... il m'a dit, ouais, ça, c'est pour les chiens de stupéfiants. Ils les utilisent à autre chose. Après, je me suis rendu compte, c'est pour les gens, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui s'enfuit ou il se sauve. Il les sort, les chiens.
Ils s'en servent pour faire leur ronde autour du centre de rétention aussi.
Ouais.
Et ils les font rentrer des fois dans le centre pour les stupéfiants ?
Non, non. Non, ils organisent de temps en temps, on peut dire, ça dépend. Les fouilles générales, tout le monde dans la cour. On est en train de dormir à 2h ou 3h du matin, tout le monde dans la cour. Des fois, il pleut, des fois, il fait moins un, des fois, il fait 2 degrés. Il ne lève de lit direct. Il sort tout le monde dans la chambre, dans les chambres. Et c'est là, on voit, il y a plus de 100 ou 200 CRS équipés, banalisés. Tout le monde à la cour, fouille générale. Et celui qui a de la chance, ils n'ont rien trouvé dans sa chambre, il a de la chance, il va retourner dans le centre. Et celui qu'ils ont trouvé dans sa chambre, parce qu'on a des petites cartes, et chacun il a le numéro de sa chambre. Il y a 59, ouais, il y a 59 chambres. Et celui qui trouve quelque chose dans sa chambre, la nuit ne passera pas comme les autres.
C'est quoi quelque chose pour eux, pour les flics ?
Un briquet, ouais. Une lame de rasoir... un objet qui n'est pas autorisé, un téléphone avec un appareil photo qui considère comme pire qu'un truc de stupéfiant. Ouais.
Ouais, c'est hyper dangereux, un téléphone avec un appareil photo.
Un stylo, vous avez le droit ?
Non.
Ah ouais,
non. Ni un stylo, ni un papier.
Ouais, par contre, ils ne font pas rentrer les chiens parce que, effectivement, pour ce qui est de la drogue, ça c'est légal, c'est les infirmiers qui les distribuent, les infirmières, c'est ce que tu nous as expliqué.
Ouais. Bon, à partir de moi, quand je suis parti voir le GLD, je lui ai sorti ce qu'il me donnait. Ça changera pas grand-chose, quoi. J'ai donné à mon avocat, j'avais un médecin traitant, que je lui montrais ce qu'il me donne, comme médicaments, Emovan, Lixomil, comme on a dit tout à l'heure, révoterait la volonté.
En fait, on va dire que c'est comme en prison, hein. En prison aussi, il y a le maintien de l'ordre, la gestion de l'ordre, ça se fait beaucoup à coup de médicaments. Donc ça, c'est vraiment un point commun qu'il y a dans plein de lieux d'enfermement. C'est on abrutit les gens avec des tranquillisants et divers médicaments en espérant que ça va les empêcher de se révolter. En tout cas, pour ce qui est du centre de rétention de Vincennes, apparemment, ça ne marche pas très bien. Moi, je voulais revenir sur quelque chose, en fait. J'aurais voulu revenir sur toi, comment tu as échappé à l'expulsion en te tailladant. Et je voudrais revenir sur le fait que, en fait, c'est une technique, parce que sans doute les luttes, notamment à l'extérieur, sont pas à la hauteur pour réussir à faire en sorte que les gens soient pas expulsés. Les luttes à l'extérieur sont assez faibles, mais c'est pas une technique qui marche à tous les coups. Je voudrais pas qu'on laisse imaginer qu'il suffit. Déjà, c'est très dangereux, mais que se taillader les veines, ça fait en sorte qu'à chaque fois les policiers ils vous expulsent pas, et notamment tout à l'heure, tu nous racontais le cas d'un Algérien qui était parti comme ça.
Ouais, il dormait avec moi dans la chambre. C'est un Algérien qu'ils l'ont attrapé après ces 20 jours, il avait un JLD. Il avait un JLD le lendemain. Il est rentré dans la chambre. Il dormait normal. Ils sont venus. Il avait, bon, pour rater son vol, le premier, il l'a refusé. Le deuxième, il a avalé des lames de rasoir. Quand même, il se trouve qu'il y avait un troisième vol. Il s'est aidé avec une lame. Il avait 83 points de suture au niveau de la jambe et le bras gauche. Après 2-3 jours, il appelle comme si l'infirmière allait oublier de lui donner un traitement. Il sortait, personne ne l'a vu. Il avait 23 lames de rasoir dans son ventre. Il les a avalées. Et du coup, il n'y a personne qui sait où il est. Bon, on croyait qu'il était à l'hôpital. Il a été pour se soigner parce qu'il était vraiment grave. Le lendemain, l'après-midi, il m'appelle avec un numéro algérien.
Il l'avait quand même expulsé. C'est arrivé samedi dernier aussi à un monsieur chinois pour lequel il y a eu une mobilisation assez forte. Il en était à sa troisième tentative d'expulsion. Et pour la deuxième, il s'était aussi tailladé les veines. Il avait avalé des pièces de monnaie. Et suite à ce qu'il se soit tailladé les veines, il avait été à l'hôpital. Et à l'hôpital, il lui avait donné un rendez-vous pour 2 jours après. Et en fait, ce jour-là, au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils l'ont emmené à l'avion et il a été expulsé aussi avec ses veines taillées. Et il a fait une infection aujourd'hui en Chine suite à ça. Voilà, donc c'est en fait, c'est juste pour raconter ça aussi parce que en fait, faut pas croire. Enfin, il n'y a pas de truc magique, quoi. Et en tout cas, pas ça.
Ouais.
Et en plus, on parlait des médocs qui sont donnés par les infirmiers régulièrement, mais par contre, quand il y a un vrai problème de santé, on l'a vu plusieurs fois, et notamment quand on vient de parler de l'incendie de Vincennes suite à la mort d'un retenu, ça arrive que les gens meurent en centre de rétention, et quand ils sont vraiment malades, pour s'occuper d'eux, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est beaucoup plus compliqué de voir un médecin quand tu as vraiment besoin d'un médecin que...
J'ai demandé de voir mon médecin personnel, c'est interdit. Ouais, mon médecin traitant, quoi. J'ai demandé de les voir. Ils m'ont dit que ça ne serait pas possible. S'ils voulaient te voir, ils passeraient comme un visiteur, quoi. Il vient, il demande une visite, il vient pour un médecin pour lui demander. Ce n'est pas un ami ou ce n'est pas quelqu'un que je connais. Médecin pour qu'il se déplace, pour rester 2 ou 3 heures en attente. Parce qu'au niveau des visites, il y a des gens qui l'attendent plus de 3-4 heures. Ils passaient 2 par 2. On est 105, plus de 200 personnes, je crois, dans les 3 bâtiments. Alors qu'ils passaient 2 par 2. Les week-ends, ça ne serait pas possible d'une visite. Moi, à partir de ma famille, des fois, ils viennent à midi, ils passeraient 17h30, 18h, au niveau où il est, le centre. On traverse 2 forêts à Joinville, c'est pas trop cool, quoi.
Et juste pour revenir sur ces histoires de médicaments, il faut savoir qu'ils distribuent super facilement du Subutex en centre de rétention, alors qu'à l'extérieur, quand on est toxico, c'est une vraie galère pour les avoir, quoi. Donc c'est quand même délirant.
Ouais.
Et maintenant, je ne sais pas si on a encore des choses à dire. Sans doute, on en a plein, mais on les dira dans les prochaines émissions. Et là, avant de passer au message, on va avoir des petites rubriques, des petites rubriques news, où il y a Gaël et Manu qui vont nous donner quelques nouvelles des centres de rétention en France et dans le monde, parce que malheureusement, ces saloperies, c'est comme les tôles, hein, ça existe partout, quoi. Tout ce qui est une saloperie, c'est international. Alors... Un petit peu de musique avant, peut-être ?
Ah non.
Non, alors on y va. Allez, Gaël, mais il est très fort, Gaël. Il va faire de l'impro. Allez, vas-y, Gaël, t'es fort.
Une petite chanson,
oui, je m'attendais pas du tout. Bon, allez, on va improviser, comme d'habitude. Non, c'est la panique, là, t'as dit musique. Là, c'est panique dans le bocal.
Non, mais chante une chanson, Gaël.
De quoi tu parles ? Non, on continue, on enchaîne. Alors voilà, de toute façon, Il n'y a pas de transition, c'est la même chose à l'étranger, France ou ailleurs, on retrouve les mêmes situations. C'est histoire d'en parler, histoire de diffuser aussi ce qui se passe à l'intérieur, de rendre visible un peu partout et de parler un peu de d'autres villes, d'autres endroits, d'autres centres, d'autres retenues, d'autres révoltes. Il y a eu autour du 31 pas mal d'actions de solidarité qui sont exprimées à l'extérieur. Je crois que sur la dernière émission, ça a été évoqué sur Vincennes ou sur d'autres lieux d'enfermement, sur d'autres tôles, des présences de solidarité, des parloirs sauvages d'organisés. En Hollande, devant le centre de rétention, il y a eu des banderoles aussi lumineuses, très équipées aussi pour pouvoir communiquer avec l'intérieur du centre. Le 31 à Turin, en Italie, la nuit du Nouvel An aussi, les flics avaient prévu le coup parce qu'il y a eu des évasions à Noël, avaient placé pas mal de civils et d'uniformes tout autour du centre. Il y a une petite émeute qui s'est organisée, qui a permis l'évasion du centre de 6 personnes. L'une d'elles a malheureusement été rattrapée et accusée de résistance et de lésion. Effectivement, à Turin, donc à Noël, ils s'étaient mis à 60. Ça a fonctionné pour une vingtaine d'entre eux pour organiser une évasion. Voilà, c'est Noël. Hein. C'est un pays catho, l'Italie. Donc, moins de gardiens, moins de flics, moins d'employés de la Croix-Rouge qui sont en service. On rappelle que la Croix-Rouge, en Italie, s'occupe de gérer directement les centres de rétention là-bas. Noël avec des facilités d'évasion, mais il y a eu tout de même des blessés parmi les retenus et parmi les personnes qui ont réussi l'évasion. Certaines se sont faites rattraper et dénoncer par les voisins du centre. Voilà, tout n'est pas non plus entièrement rose. Bologne aussi, plusieurs retenus dans la nuit de Noël aussi ont organisé une tentative d'évasion collective. Il n'y en a qu'un qui a réussi à s'enfuir. On dirait que c'est déjà ça. Régulièrement, donc, dans tous les centres en Italie, il y a énormément de révoltes. En décembre, il y en a eu plusieurs à Bologne, par exemple. Révolte au centre, des retenus sont montés sur le toit pour essayer de s'enfuir. Il y en a qui ont réussi à faire la belle. D'autres ont été inculpés. Un Tunisien de 28 ans a avalé aussi des lames de rasoir avant d'être arrêté par la police pour être emmené à l'hôpital. Il a suivi une intervention chirurgicale. Il a résisté, causé quelques dégâts et a été inculpé pour dommages. Et un autre a été inculpé pour résistance aux flics. Toujours aussi autour de décembre, à Bologne, un prisonnier aussi a réussi à s'enfuir lors d'un passage à l'hôpital après avoir avalé aussi des lames de rasoir. Voilà, on retrouve systématiquement aussi les mêmes méthodes, les mêmes utilisations de moyens ultimes. Cet homme avait été aidé aussi par 6 camarades qui sont aussi activement recherchés. Donc ça c'était Bologne. Turin, voilà, des retenus aussi sur le toit. Restinco, dans le sud, à côté de Brindisi, il y a eu tentative d'évasion collective aussi qui a provoqué pas mal d'affrontements avec la police. Milan, via Corelli, un incendie aussi a endommagé 2 sections et les sanitaires. Un retenu a été incarcéré à San Vito. Voilà, le panel là, qu'on donne assez rapide comme ça sur l'Italie, c'est pour rappeler qu'il y a pas mal de situations similaires.
Oui, je voudrais juste rappeler que la rétention en Italie est de 1 an et demi.
Ouais.
Et aussi, moi, je voudrais rappeler que si on fait un peu ces brèves comme ça, c'est parce que des révoltes, il y en a vraiment très souvent dans les centres de rétention et qu'on n'arrive pas trop à être au courant à chaque fois et donc à soutenir aussi les mecs qui prennent des fois de la prison pour ça. Et que ça nous tient à cœur de diffuser ces infos-là et que si vous en avez par ailleurs où vous soyez, c'est bien aussi de les diffuser pour que les gens soient au courant parce que c'est une première étape aussi pour essayer de se battre contre les centres de rétention.
En Autriche aussi, par exemple, où en ce moment il n'y a pas de centre de rétention, c'est prévu pour 2013. C'est des organisations qui se mettent en place dans des pays où là, l'Autriche, c'est uniquement dans des locaux de commissariat. Mais là aussi, il y a des mesures, des indications d'enfermement, des enfermements de 23 heures par jour, des conditions de rétention ou détention pour développer les pertes sensorielles, les pertes de notion du temps. Tout est élaboré, travaillé, caméras de surveillance, les pièces sous contrôle, des cellules d'isolement, etc., pour casser, évidemment, toute révolte, pour isoler toute personne s'étant révoltée. Et le but est aussi clairement affiché par ceux qui observent un peu ce qui se passe en Autriche, de maltraiter volontairement, par stratégie de dissuasion, des candidats potentiels à l'immigration clandestine en Autriche. Voilà. Les États-Unis aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, aux États-Unis, Australie, on peut aller beaucoup plus loin dans la rétention. Là, ce sont des infos très, très rapides dans les derniers jours qu'on a eues, c'est-à-dire qu'on fait circuler. C'est-à-dire que c'est des infos qui ont 3 semaines. C'est une multiplicité d'informations dans tous les sens. Là, c'est un shérif qui est assez folklorique dans son... Les shérifs, on en a régulièrement. On a des flics, shérifs qui n'ont pas forcément l'étoile sur le buste. Mais voilà, il y a le shérif qui s'appelle Arpaio en Arizona. Alors, il est particulièrement connu et célèbre pour obliger les détenus pour immigration irrégulière à s'enrôler dans l'armée, à forcer les prisonniers à porter des sous-vêtements roses, à réduire l'alimentation dans les tôles, à enchaîner tout le monde, à faire prospérer les travaux forcés, à pratiquer la torture auditive. Enfin, ce garçon, c'est plus trop quoi faire.
Quand même, il faut préciser, s'ils sont obligés de porter des sous-vêtements roses, c'est parce qu'il fait fabriquer les sous-vêtements roses et qu'en plus, comme ça, il les vend et comme ça, il gagne de l'argent. Et également, il y a un enrichissement personnel qui n'est pas négligeable.
Alors, entre l'an dernier et cette année, il y a pas mal de luttes qui ont lieu en Arizona par rapport à la chasse aux émigrés clandestins. Est-ce la conséquence de ces luttes qui ont permis de donner un éclairage un peu supplémentaire sur ce shérif ou sur ce cas isolé en Arizona? En tout cas, aujourd'hui, lui, il est particulièrement dans le collimateur de la justice américaine, coupable de discrimination de grande envergure à l'encontre des immigrés. Voilà, parce qu'il se donne énormément de marge de manœuvre personnelle pour aller faire de la chasse aux Mexicains, pour déceler les clandestins un peu partout. Il développe énormément de stratégies, organise de vastes rafles en pleine rue, dans les usines ou à l'extérieur des restaurants. Bon, quand je disais qu'on a aussi nos shérifs, enfin bon, il y a des rafles aussi particulièrement ciblées. Il y en a une, ou des distributions d'obligations de quitter du territoire sur des terrains où il y a des Roms, ou il y en a une cette semaine par exemple à Bagnolet. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu partout. Et voilà, et c'est pas simplement ce shérif qu'on pourrait considérer voilà, comme un personnage un peu à part. Mais par exemple, les élus de l'Arizona ont adopté dans cet État une loi sur l'immigration très restrictive qui autorise le contrôle au faciès. Voilà. Et puis, sur le mois de décembre aussi, le 19 décembre, il y a un truc un peu curieux, la journée internationale des migrants. Alors voilà, il y a la journée de machin, la journée de truc, la journée de ceci, de cela. Et il y a la journée des migrants. Alors, on se demande pourquoi. C'est peut-être le bonheur pour les migrants, ce jour-là, le 18 décembre. Sur cette date-là, il y a pas mal de manifestations, de trucs qui s'organisent un peu partout. Et en Belgique, il y a un groupe de militants solidaires avec les retenus qui a décidé d'organiser donc une manifestation assez classique, somme toute, comme il y en a eu déjà beaucoup à côté de Bruxelles, autour du centre d'Ostien de Kierzel. Une centaine de personnes donc s'étaient décidées à braver le froid, le vent, la plaine belge, pour aller en direction de ce centre fermé, pour manifester donc leur solidarité. Et là, donc, on a organisé tout un dispositif policier pour les empêcher. Le bourgmestre donc, a pris un arrêté pour mise en péril de la sécurité publique, la dangerosité pour la route, pour le trafic aérien, enfin pour un peu tout et n'importe quoi, pour empêcher des manifestants. Alors les manifestants sont toujours habitués à être encadrés par des hordes de flics en tenue de combat, à cheval. Bon, c'est comme autour de Paris, comme une manifestation de la même manière s'organise autour du Ménilamlo, en rase campagne à côté de l'aéroport. On sort les chevaux pour être plus efficace dans la boue. Et voilà, donc un dispositif complètement dingue, des centaines, des dizaines de cars, des intimidations dans les transports pour se rendre sur le lieu du rassemblement. Et voilà, toujours cette nécessité, si on vous parle aussi de ça, parce qu'il y a toujours cette nécessité de cacher ces endroits qui sont déjà en lointaine banlieue, difficiles d'accès. Mais voilà, ça permet aux migrants de continuer à être enfermés, isolés, criminalisés, cassés, humiliés, expulsés, comme le raconte ce texte. Et en fin de compte, pour finir, pour être très rapide, très bref sur...
J'avais juste un petit truc à rajouter sur ce qui s'est passé ce jour-là en Belgique. Comme la manifestation au centre de rétention a été empêchée, et bah, plus tard dans la soirée, il y a un groupe de 200 personnes qui se sont retrouvées dans Bruxelles et qui sont allées... à l'équivalent de ce qui pourrait être ici le ministère de l'Intérieur, ou non, le ministère de l'Immigration nationale, quand il existait encore, et qui ont réussi à briser les vitres, envoyer des meubles dans ce funeste bâtiment.
Une information sur Barcelone aussi, le 6 janvier, il y a eu le décès d'un jeune Guinéen de 21 ans au centre de zone franche à Barcelone. Là aussi, c'est pareil, c'est pas en plein centre de Barcelone, hein, si vous voulez y aller. C'est vraiment dans la zone franche, dans la zone portuaire, vraiment super à l'écart de la ville. les retenus et compagnons de cellule donc, avaient affirmé qu'il avait demandé des soins, qui lui ont été refusés, et il est mort. On parlait tout à l'heure de Salem Essouli, qui est mort le 21 juin 2008. Voilà, c'est la même situation, là, début janvier à Barcelone. Et puis, donc les retenus du centre ont refusé de manger en signe de solidarité avec leurs camarades décédés. Et puis, la semaine dernière, une femme est décédée aussi de la méningite. Aussi, on lui a refusé aussi les soins dans un centre de Madrid. Et là, il y a 200 personnes qui sont rassemblées devant le centre pour... À Madrid, il y a eu donc ce décès. Et par contre, 200 personnes se sont quand même trouvées solidaires à Barcelone pour demander la fermeture de ce centre de la zone franche. Et il y a plusieurs rassemblements aussi en Espagne, de manière assez régulière. Il y en a un qui était prévu aussi à Malaga. Et enfin, international, basque aussi. Voilà, une petite pensée aussi aux deux prisonnières basques qui sont en grève de la faim et en ce moment au Mitar. À Dijon, il y a un rassemblement demain qui est prévu devant la prison de Dijon.
Voilà, et des petites brèves en France. Alors, il y a à Rennes, une évasion de Noël le 25 au soir. Donc, il y a quelqu'un qui s'est évadé du centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Lande. Et donc, j'en profite pour dire que sur Rennes, il y a un blog qui existe, qui c'est sans-patrie.blog. 4ever.com, 4 en chiffres, où en fait il y a des petites nouvelles sur ce qui se passe dans le centre de rétention qui sont mises quasi quotidiennement. Et sinon, à Bastia, il y a eu un incendie dans le local de rétention donc, qui est situé dans le commissariat de Bastia. Et un incendie qui apparemment est parti de matelas et qui a entièrement brûlé le local de rétention et une partie du commissariat. Donc ça, c'était le 22 décembre. Et le lendemain, il y a une personne sans papier qui se trouvait enfermée dans cette prison, qui a été déférée, placée en détention provisoire et qui est passée en comparution immédiate le 27 pour dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant entraîné des blessures involontaires avec interruption de travail n'excédant pas 3 mois. Et donc, pour ces deux choses incompréhensibles, il s'est pris 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Et donc, en ce moment, à la prison de Bastia. Et aussi, apparemment, il y aura une audience le 15 février, une audience civile, parce qu'il y a 3 personnes... donc des flics intoxiqués et l'État qui sont constitués partie civile. Voilà, mais je pense qu'on en reparlera dans une prochaine émission. Et sinon, je rappelle encore qu'il y a un rassemblement au centre de rétention de Vincennes demain, samedi 14 janvier à 16h au RER Joinville-le-Pont, RER A.
Fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi. et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les boumons s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazos, mon cheval écorché m'appelle.